Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
Jusqu'à 22h.
Pour ne pas que des fous nous renversent, on prenait le chemin de traverse, même s'ils ne sont jamais les plus courts.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Aznavour, Lavilliers, Sardou et Francis Cabrel qui nous chantent des chemins de traverse. On part en voyage, partir en voyage loin. C'est un projet, un rêve inaccessible parfois. On le réalise ce soir sur RTL avec nos partenaires du magazine Courrier International qui propose dans son hors-série de l'été 20 voyages extraordinaires. On a tous besoin de se rafraîchir, Virginie le
oui.
Petit. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Ça, je vais faire 100% de oui. Et donc, on a choisi le Grand Nord canadien comme première destination. Plus précisément, l'île d'Ellesmere ou Ellesmere, je ne sais pas comment on prononce. Est-ce que vous pouvez déjà nous la situer et nous la décrire ?
Alors, c'est une île immense. Ça fait partie des 10 plus grandes îles du monde. Et elle est située en fait au nord-est du Canada, tout près du Groenland. Et vraiment, on est dans l'Arctique, hein. c'est le Grand Nord. Et voilà, deux explorateurs, deux aventuriers, en fait, vraiment dans la plus pure tradition, ont décidé d'en faire le tour, de faire une circumnavigation autour de cette île. Et c'est un énorme voyage, immense. Et ils font ça à pied, en kayak et à ski.
D'accord, donc c'est un sacré défi. Deux aventuriers qui s'appellent John, Yon Turk et Eric Boomer. Qui sont-ils à quoi il ressemble ?
Alors, John Turk, c'est un monsieur qui, à l'époque, puisque ce récit qui date de, enfin, raconte une expédition qu'il a menée en 2012, il a 66 ans. Mmh. À la base, il est chimiste, il est devenu écologiste, il est devenu aventurier, il a parcouru des déserts, il a déjà fait le Grand Nord, il est allé s'initier au chamanisme en Sibérie. Enfin, c'est quelqu'un.
Donc, déjà un personnage.
Un personnage.
Et son collègue, Eric Boomer.
Alors, c'est un jeune homme de 26 ans, un jeune photographe, et ils partent tous les deux seuls faire cette expédition. Et donc, John Turk raconte ensuite cette aventure qui a été une grande, grande aventure, une des dernières grandes expéditions polaires.
Virginie Le Petit, l'article que vous publiez dans le Courrier International commence par une rencontre. Ça fait 93 jours que les deux hommes sont partis, ils sont au milieu des icebergs. Que se passe-t-il ?
Alors, ils sont en kayak, et puis d'un seul coup, ils voient à la surface de l'eau comme une ombre argentée, et un morse surgit au niveau du kayak du photographe Eric Boomer. Et là, en fait, ils ont la peur de leur vie parce que le morse, ça pèse une tonne. C'est un animal qui...
C'est pas qu'une expression ?
Ah non, vraiment 1000 kilos, une tonne. Et s'il retombe sur le kayak, il peut renverser le kayak, et surtout, ils ont des défenses sur lesquelles ils empalent leur proie. Enfin, il décrit toute la façon dont ils mangent leur proie, un peu en aspirant les intestins. Enfin, c'est assez terrifiant. Et là, d'un seul coup, le temps est comme suspendu.
Il faut imaginer la scène. Les deux kayaks sont éloignés de quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, c'est ça. Donc, il y en a un qui voit le morse peut-être s'attaquer à son copain.
C'est ça, et qui s'imagine que son camarade est en train de... Enfin, est déjà condamné, ouais. Mort, etc.
Comment il s'en sort ?
Eh bien, il s'en sort de façon très simple. Il prend sa pagaie et il tape sur le museau du morse à deux reprises. Et ensuite, il pagaie comme un fou et ils s'en vont. Et visiblement, le morse est tellement surpris par la réaction qu'il ne se passe plus rien. Mais c'est une rencontre qui leur fait très, très peur sur le coup.
Est-ce qu'ils vont en faire d'autres, des rencontres animalières comme ça, nos deux aventuriers ?
Alors, ils vont faire une autre rencontre. Alors, cette fois-ci, c'est un animal terrestre et qui, lui aussi, est un redoutable prédateur. Ils vont rencontrer tous les jours, ils vont croiser des ours blancs. Et ils les comptent. Donc, il y a tous les jours, et ils vont compter le nombre d'ours blancs.
Ils notent ça sur leur carnet de bord,
oui,
c'est ça ?
Oui, sur leur carnet de bord. Aujourd'hui, ouais. 11 ours. Aujourd'hui, 3 ours.
11 ours par jour ?
Certains jours, 11 ours.
Ah oui,
oui,
c'est pas mal quand même.
Donc, le plus souvent, ils les voient de loin, mais quelquefois, les ours s'approchent.
Il y a des ours de nuit aussi, c'est ça ?
C'est ça. C'est-à-dire qu'ils racontent qu'une nuit où ils sont dans leur tente, ils entendent du bruit à proximité de la tente. Et quand ils ouvrent, c'est des grandes tentes avec une espèce de vestibule. Quand ils ouvrent la fermeture éclair qui sépare la chambre du vestibule, ils voient un museau. L'ours a ouvert la tente avec ses griffes. Oh. Et il a passé son museau. Il y a deux yeux noirs qui les regardent.
Ils ont fait le coup de la pagaie ou pas à ce moment-là ?
Alors, ils ont fait autre chose. Ah. Ils ont adopté une autre stratégie. Ils ont pris une voix extrêmement forte et ils l'ont insulté. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas tout répéter ici, mais dehors l'ours, va-t'en, on ne veut pas de toi ici. Et puis plein de noms d'oiseaux bien sentis, en prenant une très très forte voix. Et l'ours a reculé et il est reparti d'un air un petit peu vexé, apparemment.
Ouais, et en fait, ils se sont rendus compte, cette scène elle est hallucinante, hein, qu'il y avait toute la famille, quoi, peu de choses près, qui était là dehors.
Exactement, il y a d'autres mâles, des petits, des femelles. Et donc en plus,
ils venaient peut-être juste dîner.
Oui, ou simplement se rendre compte.
Sauf que le menu, c'était John et Eric.
Ah, bah oui, mais bon.
Exactement.
Ce que vous voulez.
Donc, ils ont échappé au pire. Donc, ils se sont lancés ce défi, Eric Boomer et Yon Turk, de faire le tour de cette île gigantesque. Au total, ça fait combien de jours, combien de kilomètres de circumnavigation, comme vous nous dites?
Alors, ça fait 104 jours. Et en 104 jours, ils ont fait 2400 kilomètres, ce qui est quand même énorme. Et dans des conditions, quand même, qui sont celles du Grand Nord. Donc, même si ça se passe au printemps et en été arctique, on flirte avec les 0 degrés, il fait très froid, il pleut parfois et la pluie c'est pire que la glace, hein, ça les détrempe, enfin c'est très compliqué.
Ils ont rencontré des animaux mais aussi découvert des sites sacrés dont celui du Cap Faraday. Pourquoi il est sacré ce site ?
Il est sacré parce qu'apparemment ce sont des igloos en pierre et qui seraient les vestiges des premiers, on va pas dire colons, mais des premiers humains qui se seraient aventurés en fait dans cette terre, vraisemblablement en passant par le Grand Nord. Et donc, ils sont très respectueux de ça.
Mais
les deux.
Des igloos en pierre, donc ça veut dire que c'est un peu l'ancêtre de l'igloo en glace ?
Apparemment. Ouais. Mmh. Voilà, et qu'il resterait que les fondations et les premières couches.
Ils ont tous les deux une réflexion et un mot, ils parlent d'écologie profonde. Oui. Ça veut dire quoi ?
Alors, l'écologie profonde, c'est vraiment un mouvement philosophique et sa particularité, c'est de ne jamais voir les autres espèces et le monde vivant comme quelque chose d'utile. C'est-à-dire que ça place tous les êtres vivants au même niveau et l'idée, c'est de regarder le monde en faisant vraiment partie, en mettant tout le monde au même niveau. Et c'est ce regard-là qu'ils essaient d'avoir, en fait, sur les animaux et sur ce qui les entoure.
Ouais, et d'engueuler un ours blanc comme si c'était un intrus qui était rentré. Dans la maison, exactement. Un autre récit d'aventure à venir dans la curiosité, celui d'un jeune Italien qui a traversé l'Atlantique Nord à bord d'un porte-container.
Vous écoutez RTL.
La curiosité de découvrir des voyages extraordinaires, c'est ce que l'on vous propose sur RTL ce soir en partenariat avec Courrier International. Virginie Lepetit, chef d'édition du magazine, nous raconte et nous emmène. Alors après le Grand Nord canadien, maintenant on va traverser l'Atlantique à la vitesse d'un cyclomoteur. Oui, c'est possible. Alors, vous allez nous présenter Vincenzo Latronico. Et sur quel bateau va-t-il embarquer ?
Alors, c'est un jeune écrivain italien, philosophe aussi. Et puis là, il décide soudain de partir comme ça, faire un voyage sur un cargo porte-container. Donc, il faut imaginer ce que ça peut être, un cargo porte-container.
Mais c'est l'exception, parce que c'est courant de pouvoir voyager sur un paquebot porte-container.
Alors, apparemment, on peut, mais il faut avoir le temps déjà, ouais, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est pas une traversée en ligne droite, hein, de l'Atlantique. Et puis, les conditions sont quand même pas celles d'une croisière, hein. Là, il embarque avec beaucoup de marchandises, une équipe réduite de marins. Et puis, il n'y a rien à faire, hein, sur ce navire. Pas grand-chose, en tout cas.
Alors, on va prendre le voyage depuis le début, c'est-à-dire le port d'embarquement. Il part d'Anvers. À quoi ressemble ce port, justement, où il doit embarquer ?
Alors, c'est un grand, grand port de marchandises et un port industriel. On pourrait imaginer... Il y a des labyrinthes de tuyaux, ça c'est pour tout ce qui est gaz, pétrole, etc. Et puis il y a d'immenses parkings où sont entreposées les voitures qui vont voyager et prendre eux aussi le bateau. Et donc c'est comme un immense parking avec des labyrinthes de tuyaux dans lequel on peut se perdre.
Tout est gigantesque en fait, on a l'impression que l'homme n'a pas sa place dans cet environnement.
Et c'est pas si facile de voir la mer finalement dans ce port qui est plutôt du béton quand même, hein. Donc voilà.
Alors on s'imagine ce drôle de projet, traverser l'Atlantique à bord d'un porte-container. Ce bateau s'appelle le Grand Cameroun. Il faut le décrire déjà. Ça ressemble à quoi ?
Alors lui, il décrit ça comme un phare à repasser de 40 mètres de haut, oui, sur 200 mètres de long. Il dit que c'est comme si on entassait trois couches de hangar sur 10 couches de parking, enfin sous 10 couches de parking, puis ensuite les cabines, puis ensuite le poste de pilotage. Une espèce de pyramide comme ça, un amoncellement de choses qui sont plutôt terrestres à la base, et puis qui tiennent toutes sur ce navire d'acier.
Enfin, voilà, il est très lourd, ce navire d'acier ? Ça représente quoi, je ne sais pas, en nombre de personnes, par exemple ?
Alors, quand il est plein, ouais, quand il est chargé, hein, ouais, quand il part du port, je crois que c'est comme si 1 million de personnes avait pu embarquer dans ses soutes. Donc c'est quelque chose de phénoménal.
J'ai été très surpris de ce chiffre. J'ai essayé de calculer, etc. Donc poids du bateau plus poids de sa cargaison, on est bien d'accord.
Hein,
c'est le total. Ces porte-conteneurs, Virginie Le Petit, il raconte, Vincenzo, que ce sont les premiers outils de la mondialisation.
Oui, parce qu'on s'en rend pas compte. En fait, ce transport maritime assure 95% du transport de marchandises. Tout transite par ces bateaux. C'est sûr, c'est surtout extrêmement peu cher pour faire transporter, pour faire voyager les marchandises.
Il n'y a pas moins cher, quoi.
Il n'y a pas moins cher, je crois qu'il dit que c'est... Si on transporte par exemple des canettes de Coca ou d'autres choses d'ailleurs dans un container.
Ou de Pepsi, ça marche aussi.
Voilà, c'est 1 centime par canette, le coût du transport. Donc c'est extrêmement peu cher et ça permet de traverser l'Atlantique.
Est-ce qu'il raconte ce que porte-container contient justement ? Est-ce qu'il a la curiosité d'aller voir, je ne sais pas s'il y a des étiquettes sur les containers pour savoir quelle marchandise transite comme ça à travers le monde ?
Alors il y a des voitures, énormément de voitures d'occasion. Il en compte, c'est des milliers de voitures d'occasion qui embarquent sur le bateau. Et puis, dans les containers, il peut y avoir absolument tout. Donc, des canettes, des objets de la vie quotidienne. Puis, plus tout ce qui voyage un petit peu en douce.
Mais alors ça, la question de la contrebande, effectivement, elle est assez fascinante dans cette aventure à bord de ce porte-container. Parce que moi, j'ai découvert qu'en fait, c'était plus les voitures d'occasion.
Oui.
Qui servait à la contrebande. Oui. Alors, c'est très étonnant, parce que c'est facile à ouvrir une voiture d'occasion.
Mais c'est ce qu'on croit, mais visiblement non. C'est-à-dire que moi aussi, je pensais que c'était dans les containers qu'on pouvait mettre de la contrebande, mais ils sont passés au rayon X, en fait, ont des radiographies.
D'accord.
Donc, il n'y a pas grand-chose qui passe. En revanche, les voitures, elles sont scellées, soudées, par les propriétaires ou les vendeurs avant qu'elles n'embarquent. Et on n'a pas le temps de vérifier tout ce qu'il y a dans les voitures. Donc, certaines sont chargées à bloc de marchandises de contrebande. Et là, c'est l'auberge espagnole. Hein.
Ça veut dire que Vincenzo Latrunico, pendant qu'il voyage sur ce porte-container, il assiste, il constate qu'il y a des voitures de contrebande. On lui dit, c'est les marins qui sont à bord.
Les marins qui sont à bord le lui racontent et puis lui disent qu'eux-mêmes ouvrent certaines de ces voitures en espérant y trouver effectivement des objets de valeur, des téléphones, des télévisions, des ordinateurs, enfin tout ce qui pourrait se revendre, parce que personne ne viendra porter plainte. C'est-à-dire que
ils essayent de les piller pour eux-mêmes.
Et quelquefois ils tombent sur des choses un peu dangereuses. Apparemment, une fois ils ont trouvé toute une cargaison d'armes, de fusils d'assaut, et quelquefois de la drogue visiblement aussi.
Il n'y a que des hommes à bord ?
Oui, uniquement des hommes. C'est un équipage assez restreint, ils sont 26 pour cette immense, immense cargo et apparemment avec une espèce de classe, c'est-à-dire que tous les officiers sont italiens, c'est un cargo italien. Ils sont 6, je crois, ils sont pas du tout nombreux, et tous les autres, et ils ne mangent pas à la même table, tous les autres sont roumains et philippins. Et il y a vraiment deux classes, les marins et les officiers, et on ne se mélange pas.
Ils s'occupent comment pendant le voyage, ces marins ? C'est quoi les fonctions ? Je rentre peut-être un peu dans les détails.
Il décrit, on sent quand même qu'il y a un certain ennui qui s'installe.
Oui, c'est une leçon de patience. Hein.
Il le dit qu'il faut être très patient, il compte le nombre de cigarettes qu'il fume, il en fume 800, je crois, au cours du voyage, c'est quelque chose... Et donc, la vie est rythmée par les repas que lui prend à la table du capitaine, en silence, personne ne parle, par les tournois de ping-pong qui ont lieu tous les jours, et puis par de grandes promenades sur le pont, la lecture. Mais il n'y a pas grand-chose à faire pendant la traversée, surtout pour un passager qui, lui, ne participe pas finalement aux manœuvres ni à quoi que ce soit.
Et donc, il y a des escales, ce que vous me disiez, ce n'est pas une traversée directe de l'Atlantique, ça va passer aux Canaries, ça va s'arrêter
en Sierra Leone,
à Dakar, en Gambie, etc. Et il va assister à des scènes étonnantes quand même, ce Vincenzo Latrunico, notamment quand des officiels des douanes débarquent avec des sacs poubelles vides.
Oui,
Pourquoi ça le
surprend énormément, il ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, c'est simplement pour se ravitailler. C'est-à-dire que les officiels des douanes dans ces pays-là arrivent avec leurs sacs poubelles vides, refont le plein de victuailles, de whisky, de cigarettes dans les réserves du navire et ferment les yeux justement sur toute cette contrebande et ces voitures qui débarquent pleines d'on ne sait quoi sur les côtes de l'Afrique, parce qu'elles sont destinées à l'Afrique, ces voitures qui sont scellées.
Ouais, et pour les hommes d'équipage, alors on a dû on a vu que la coulait plutôt douce pendant la traversée, mais les escales, comment ça se passe les escales ?
Les escales, c'est très dur parce que c'est là finalement qu'il y a énormément de manœuvres. Ils doivent décharger la marchandise. Alors autant lui, pendant les escales, essaie de visiter un peu, de profiter du pays, autant eux sont épuisés. C'est vraiment des moments très intenses pour eux parce qu'il faut faire très vite pour décharger la cargaison et ils n'ont pas vraiment le temps, eux, de se la couler douce. Ouais. Escales.
Dernier mot, l'odeur de ce voyage, c'est quoi ? C'est les embruns ou
Non. Ça sent le gasoil, c'est ça.
C'est moins glamour d'un seul coup.
Non, tout le cargo, visiblement, est rempli de l'odeur du gasoil et c'est ça qui l'a marqué. Pour lui, c'est maintenant l'odeur de la mer et de l'océan.
Et il a envie de continuer ce type de voyage sur les porte-conteneurs ou c'était l'histoire d'une fois pour Vincenzo Latronico ?
Visiblement, c'est quand même l'histoire d'une fois. Il le raconte très très bien, mais c'est l'histoire d'une fois.
À lire dans Courrier International. Après le bateau, c'est un voyage en train que l'on vous propose dans la curiosité. 1800 km entre la Zambie et la Tanzanie. Dépaysement garanti sur RTL, apportez la lecture.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
La curiosité est un vilain défaut.
I am a passenger. And I ride and I ride.
RTL. Jusqu'à 22h.
I believe I can fly.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
I believe I can touch the sky.
I believe I can fly like a hobo passenger de Iggy Pop. On voyage en chanson dans la curiosité des voyages extraordinaires qui sont aussi à la une du hors-série que le magazine Courrier International publie cet été en partenariat avec RTL. Alors Virginie Lepetit, après le Grand Nord canadien, après la traversée de l'Atlantique en porte-container, c'est un voyage en train que l'on vous propose. On va poser le décor. On part de quelle ville ? Et quelle est notre destination ?
Alors, on part de Zambie, de la gare de Kapirimposhi, j'espère que je prononce correctement.
On en est sûr.
Oui, et on rejoint Dar es Salaam en Tanzanie. C'est 1800 km et c'est 3 jours de trajet, ou 4, ou 5, on ne sait pas trop.
Ça dépend des pannes, voilà. Ça dépend des impondérables. Ce train, on racontera un peu son histoire dans un instant, on l'appelle comment ?
Alors, on l'appelle le Tazara pour Tanzania Zambia Railway Authority. Mais c'est le train Tazara.
Et il tout le monde l'appelle comme ça, le train Tazara.
70. Oui, ouais. Tout le monde l'appelle comme ça.
Alors, son histoire, c'est une histoire un peu politique.
Oui, économique, politique. Alors, ça vient en fait de la façon dont la Zambie voulait exporter son cuivre, qui jusque dans les années 60 partait vers le sud, vers ce qui était la Rhodésie. Ouais. Et puis, avec les indépendances successives, il a fallu trouver en fait d'autres débouchés. Et donc, la Zambie a commencé à regarder vers le nord, mais les routes étaient impraticables. Donc, il a fallu construire une voie de chemin de fer. Ils ont cherché des financements et finalement, ils ont trouvé des financements chinois.
Donc le président zambien de l'époque est allé voir Mao, puisqu'on est à la fin des années 60, c'est ça ?
Et qui lui a accordé un prêt, et un prêt sans intérêt, pour construire cette ligne de chemin de fer, et qui donc a vu le jour ensuite dans les années 70.
Mais construite par qui ?
Alors construite par les Chinois, et enfin, c'est une construction collégiale en fait, et la Chine a toujours des intérêts. Hein. C'est pas, y a pas un détachement total encore maintenant sur cette ligne de chemin de fer.
Hein. Et aujourd'hui encore, Virginie Lepetit, il y a un mot qui est associé à ce train Tazara, c'est le mot inquiétude. Pourquoi de l'inquiétude ?
Alors, de l'inquiétude parce que, déjà parce qu'on ne sait jamais quand on va arriver et un peu dans quel état, si on va se retrouver avec suffisamment de boissons à bord du train, du ravitaillement, etc. Et puis parce que, à la fois, il y a quelque chose d'extrêmement, un grand brassage à l'intérieur du train, mais aussi on y passe la nuit. La nuit est un peu angoissante. Il y a des bagarres, ou du moins on sent qu'il y a des disputes. C'est assez, c'est quand même un voyage un peu vers l'inconnu, ce train.
Et qu'est-ce qu'il représente, ce train, pour les villages qu'il traverse ?
Ce sont
des rencontres.
Oui, et puis du commerce également. Ouais. À chaque escale, il y a des échanges commerciaux qui se font entre les villageois et les voyageurs du train. Apparemment, c'est aussi un émerveillement à chaque fois qu'il passe. Donc, c'est quand même une activité économique qui persiste, qui traverse absolument les deux pays. En ligne presque droite, on va dire.
Mais on croise qui à bord ? Qui prend ce train ? C'est un train de fret majoritairement pour transporter ce cuivre ou alors c'est devenu un train de passagers ?
Alors c'est devenu un train de passagers parce que le commerce du cuivre s'est un peu éteint. Et donc c'est devenu un train de passagers. Il y a quelques touristes. Il y a également des commerciaux. C'est un énorme brassage et on y parle énormément de langues. Enfin, c'est très, très varié, en fait, à l'intérieur de ce train. Mais c'est aussi, malheureusement, un train qui perd de l'argent parce qu'effectivement, il n'y a plus ce fret pour le soutenir.
Économiquement, elle est en danger, cette ligne, c'est-à-dire qu'elle pourrait disparaître, ou enfin disparaître, en tout cas s'arrêter de fonctionner.
Alors, elle est en danger, ça c'est certain, parce qu'il y a eu un manque d'investissement certain depuis l'apogée du train dans les années 75-76. Et puis, il y a eu des grèves, il y a eu des conflits, énormément de conflits sociaux. Donc là, la compagnie Tazara est très très endettée. Et suivant les gouvernements qui se succèdent, on parle de 1,2 milliard de dollars pour renflouer la ligne, on parle d'autres 1 700 millions, d'autres 10 320 millions de dollars. En tout cas, ce sont des sommes colossales si on veut juste la maintenir fonctionnelle. C'est très difficile.
Alors, on est un peu dans l'histoire et dans l'économie. On voudrait bien quand même un peu imaginer l'ambiance à bord de ce train Tazara. D'abord, est-ce que les gens se mélangent entre eux? Est-ce qu'ils discutent entre eux? Est-ce qu'ils boivent des coups?
C'est ça, tout se passe au wagon-bar apparemment.
D'accord.
Donc oui, on se mélange beaucoup, on discute beaucoup, on admire le paysage parce qu'on traverse aussi des paysages parfois luxuriants, on voit les animaux et tout ça.
Bah oui, on est quand même entre la Zambie et la Tanzanie, ça fait un peu rêver.
Ça fait rêver, oui, ouais. C'est sûr.
Vous savez ce qu'on voit comme type d'animaux d'ailleurs ?
Alors, on nous décrit des girafes, on nous décrit des singes, on nous décrit énormément de choses, bon, les villages également, mais voilà, ça se mélange énormément, ça discute beaucoup, ça se dispute aussi un peu, c'est très vivant, enfin, le reportage décrit quelque chose d'extrêmement vivant.
Et vous l'avez un petit peu évoqué, Virginie Le Petit, mais il faut peut-être détailler. La nuit, effectivement, c'est plus tendu. Qu'est-ce qui peut se passer la nuit ?
Alors, c'est un train dans lequel il y a encore 3 classes de voyageurs.
Ouais.
Et apparemment, la nuit, d'abord, c'est une nuit extrêmement noire. On ne traverse pas des villes largement éclairées. Et puis, les voyageurs de 3e classe, souvent un peu éméchés parce qu'ils ont passé la journée ou la fin de journée au bar, viennent frapper à la porte des premières classes pour réclamer, eux aussi, des couchettes. Donc, il y a beaucoup d'agitation. Le journaliste nous décrit, donc ça vient d'Afrique du Sud, ce reportage, il décrit quand même une certaine angoisse, on sent qu'il n'a pas très bien dormi, et qu'il y a des tensions en fait, et que les classes sociales et les différences sociales ressurgissent à la faveur de la nuit, et c'est pas pour le meilleur.
L'arrivée, on l'a dit, se fait donc en Tanzanie, à Dar es Salaam. Alors, sans savoir précisément quel jour, quelle heure, c'est ça, c'est pas la SNCF, quoi.
Non, c'est pas la SNCF.
On grogne quand on a une demi-heure de retard, mais là...
Non, là, il peut y avoir 48 heures de retard.
Là, ça peut être plusieurs jours. Mais malgré tout, il y a toujours une foule qui attend le train à l'arrivée.
Oui.
Qui accueille finalement les passagers du Tazara ?
Des porteurs qui se disputent pour essayer de récupérer les bagages des voyageurs, des taxis. Il y a une foule immense quand le train arrive. Et en plus, cette foule immense rencontre une foule qui se déverse, enfin, c'est ce qu'on nous décrit, qui se déverse dans la gare dans un râle, c'est ce que dit le journaliste. Et donc, c'est pareil, il y a une espèce de cacophonie et un mélange qui est extrêmement fort à Dar es Salaam.
Alors voilà pour ce voyage en Afrique, il y a un autre très bel article sur le rail dans ce courrier international hors série de l'été, l'appel du rail. On écoutait Like a Hobo tout à l'heure, c'est un journaliste qui propose à des cols blancs en mal de sensation de vivre la vie des hobos. Il leur fait traverser les États-Unis en sautant de train en train sur les traces des clochards célestes de Jack Kerouac. Voilà, c'est un des articles à lire dans Courrier International. Et puis, une autre aventure qu'on vous propose dans un instant. Très vite, restez avec nous sur RTL. On va suivre, quel drôle de métier, des chasseurs de graines. Première escale, la Nouvelle-Zélande.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On sillonne le monde sur RTL grâce au magazine Courrier International qui nous offre 20 voyages extraordinaires dans son numéro hors série de l'été. Virginie Le Petit, vous nous servez de guide et vous nous présentez maintenant 2 Néo-Zélandais. Ils s'appellent Zane Weber et Michelle Williamson. Qui sont-ils et quel est leur métier ?
Alors, ce sont des scientifiques et ce sont des chasseurs de graines.
Chasseurs de graines,
oui,
ça veut dire quoi ? Des graines de quoi ?
Alors, eux ont une spécialité, c'est les graines de fourrage, mais en fait, chasseurs de graines, ça veut dire qu'ils partent en expédition dans sur tous les continents, dans les campagnes un peu reculées, pour y trouver des plantes sauvages qu'on ne connaît pas encore, les recenser et puis pouvoir les conserver dans des espèces de banques de graines pour conserver la biodiversité.
Alors vous avez employé ce mot graines de fourrage, j'imagine que c'est pour nourrir les animaux, c'est
ça ? Exactement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de chasseurs de graines. Certains vont chercher les plantes qui nous nourrissent, nous les humains, pour essayer de trouver de nouvelles espèces, des espèces sauvages, qui plus résistantes, etc. Et eux se focalisent, ces deux scientifiques, sur les graines de fourrage, donc les graines qui vont servir, les plantes qui vont servir à nourrir les animaux, et en particulier les moutons et les vaches.
Alors leur camp de base, c'est la ville de Palmerston North, pour être précis, donc en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas ?
Alors on y trouve en fait un complexe scientifique, et dans lequel il y a des entrepôts réfrigérés où sont conservés pendant plusieurs décennies des graines. Voilà, donc c'est là qu'ils travaillent, eux-mêmes cultivent, ils essaient de faire des hybridations, et ils entreposent tous les résultats dans cet entrepôt réfrigéré immense.
Donc tout voyage de chasseur de graines commence par un atlas,
oui.
une grande carte.
Oui.
C'est quoi leur dernière destination ?
Alors, la destination qu'ils décrivent dans l'article,
c'est la Russie.
C'est la Russie.
Et sinon, ils ont vraiment sillonné la planète,
ils ont sillonné la planète, ils sont allés au Tadjikistan, ils sont allés en Tunisie, en Turquie, en Chine, en Espagne, hein, aussi en Europe. Ils ont quand même des points, en fait, des espèces de points chauds dans lesquels ils s'attendent à trouver des graines inconnues. Donc, ils les ont recensées sur une carte et ils vont explorer très régulièrement ces points pour y découvrir de nouvelles espèces.
Évidemment, il faut une autorisation. Ils ne se pointent pas dans ces pays
comme ça. Il faut une autorisation, il faut des permis, il faut avoir négocié avec les autorités. Et puis, il leur faut des guides parce que forcément, ils ne parlent pas forcément les langues locales et ils arrivent un petit peu comme des intrus dans des territoires qui ne sont pas forcément prêts à les accueillir.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils racontent dans le papier de Courrier International, de ce hors-série de l'été, quand ils débarquent en Russie, dans les montagnes de l'Altaï, ce duo homme-femme, hein, Michel Le, c'est une femme, ne passe pas inaperçu.
Non, ils ne passent pas inaperçu. Ils sont repérés par un garde champêtre qui voudrait bien savoir ce qu'ils sont en train de faire, à fouiller là comme ça dans les prés, à prélever des choses, etc. Et ils essaient, leur guide est un peu plus loin, ils essaient de lui expliquer ce qu'ils sont venus faire.
Mais ils parlent pas la langue.
Et donc ils essayent d'expliquer qu'ils sont venus là pour les vaches.
Donc ils
imitent les vaches.
Ils font meute.
Voilà. C'est assez ridicule et fort heureusement leur guide arrive, leur montre le permis au garde champêtre et tout se résout. Mais oui, ils se retrouvent quand même dans des situations un peu extrêmes parfois.
On les prend parfois pour des fous, pour des dingues.
Oui, un peu, c'est ce qu'ils décrivent. Mais je pense qu'ils sont un peu dingues quand même, parce que leurs expéditions sont dans des conditions un petit peu, minimalistes. Hein. Ils partent dans des vieux vannes, il faut voyager très très léger, ils dorment dans le froid, ils se baignent dans des ruisseaux glacés. Bon,
mais ça veut dire quoi, voyager léger ?
Voyager léger, c'est voyager, ils sont plus que deux, ils sont quatre parfois, dans un vieux van complètement défoncé, avec le moins de bagages possible, parce que le but c'est quand même de ramener les plantes, c'est ça qui est intéressant, et puis parce que il faut s'encombrer le moins possible quand on part faire ce genre d'expédition.
Toutes ces graines, ils les mettent dans quoi ? Ils les mettent pas au fond des poches, ils ont des petits sacs, des petites fioles.
Oui, ils ont des petites fioles, et puis surtout, une fois qu'ils rentrent au bercail, on va dire, là, ils essaient de les faire germer, de les faire proliférer pour avoir non pas une plante, mais plein de plantes et pouvoir échantillonner tout ça.
Mais bon, alors j'ai bien compris que c'est chasseur de graines, hein, c'est vraiment un métier hors norme qu'on vous fait découvrir sur RTL ce soir dans la curiosité. Ces chasseurs de graines, ils ont l'autorisation des pays qu'ils visitent, mais on pourrait quand même les prendre un peu pour des pilleurs de biodiversité. Est-ce qu'ils partagent les plantes, les graines qu'ils trouvent avec les scientifiques locaux, les chercheurs locaux ?
Oui, eux, ce que l'on décrit ici, partagent avec les scientifiques locaux. Ils ont des autorisations, mais il y a d'autres chasseurs qui sont moins scrupuleux, et il y a des pays qui ne veulent plus voir ces scientifiques venir sur leur territoire parce qu'on est venu chercher des plantes chez eux, on est venu chercher de la biodiversité et on a breveté sans leur demander, sans partager les revenus de ces brevets sur le vivant avec les pays concernés.
Parce qu'il y a des enjeux économiques derrière.
Bien sûr, il y a des enjeux économiques, c'est-à-dire que ces plantes sont souvent plus plus résistante ou plus nutritive. Elle résiste au froid, au chaud, à la sécheresse. Et si on peut les hybrider, c'est-à-dire les croiser avec d'autres plantes fourragères, il y a des enjeux pour résister au réchauffement climatique, mais aussi des enjeux de rendement. Donc oui, c'est des enjeux économiques et environnementaux derrière.
Alors on imagine Zané et Michel de retour en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'ils font de ces graines russes rapportées des plaines de l'Altaï, par exemple ?
Alors, ils les hybrident parfois, c'est-à-dire qu'ils cherchent à obtenir des variétés qui n'existent pas dans la nature. Et parce que ces plantes qui sont sauvages vont apporter à des variétés qui, elles, sont des variétés cultivées, qui ont été sélectionnées depuis des siècles et des décennies. Ces plantes sauvages vont apporter de l'amélioration, en fait, de la résistance, donc, c'est ce qu'on disait, à la sécheresse, peut-être à certains parasites, enfin... Donc, ils essaient de créer de nouvelles espèces. Ils y parviennent parfois. Ils y parviennent là, ils expliquent, avec du trèfle blanc.
Ah oui, cette histoire, elle est dingue. Oui, ils ont retrouvé
les ancêtres,
l'origine du trèfle blanc. Les ancêtres du trèfle blanc.
Ils décrivent ça assez joliment comme une histoire d'amour. Moi, je trouve ça assez poétique, en fait.
Mais oui, mais surtout, c'est étonnant. Comment c'est possible ? Parce qu'ils expliquent que le père et la mère du trèfle blanc, l'un pousse dans les montagnes d'Azerbaïdjan et l'autre sur les plages du Portugal.
Exactement.
Et comment ils ont pu se rencontrer, ces deux-là ?
Alors c'est
curieux.
Mystère.
Eh
ben non, c'est mystérieux.
Bon, peut-être transporté par des animaux, des caravanes, on ne sait pas. Mais oui, ils se sont rencontrés et ils ont pu déterminer que c'était les deux ancêtres. Et à partir de là, ils peuvent peut-être espérer faire de nouveaux hybrides avec ces trèfles blancs.
C'est important dans un monde, dans une planète Terre en proie au dérèglement climatique.
Oui, parce que le dérèglement climatique va dérégler très très vite donc le climat et les conditions en fait de culture de ces fourrages. Et on va avoir besoin de fourrages qui peuvent résister à tous ces changements et pour pouvoir nourrir les animaux et pour que nous on puisse s'en nourrir, évidemment.
Merci beaucoup Virginie Le Petit, on renvoie à la lecture de ce hors-série spécial été de Courrier International consacré donc à ces voyages extraordinaires. C'est en partenariat avec RTL. Merci
à vous.
Vous écoutez RTL.